Mon invité, le docteur Véronique Benamou, elle organise depuis plus de 12 ans des missions humanitaires dans plusieurs pays de l'Amazonie, notamment au Mexique, au Nicaragua, au Pérou. La dernière mission humanitaire a eu lieu en Équateur. L'équipe s'est retrouvée au beau milieu de l'Amazonie, dans un village sans eau, sans électricité et ni téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dentiste spécialiste parodontiste, parce qu'on peut bien avoir des médecins sans frontières, mais c'est extrêmement intéressant de savoir que des dentistes québécois partent et vont également aider des gens pour qui le dentiste ne passe pas souvent ou on ne voit pas souvent. Docteur Benamou, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir ce soir.
Ça fait 12 ans que vous organisez ces missions humanitaires.
Ça fait 12 ans, peut-être même un petit peu plus.
Vous rappelez-vous de la toute première?
Oui, je me souviens de la toute première. Je voulais participer là-dedans et j'avais une amie qui organisait ça et elle devait aller au Pérou. Et donc, je lui avais dit comme ça au lunch, j'aimerais ça aller avec toi la prochaine fois. Effectivement, quelques mois plus tard, elle me rappelle et elle me dit, bon, ben voilà, c'est là. Et on est allé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et voilà, 12, 13 ans plus tard, je suis encore là et c'est moi qui organise maintenant.
Quand vous partez en voyage annuel là, pour ce voyage humanitaire, vous êtes combien, une équipe de combien de personnes?
Ça dépend des voyages. Ça peut aller entre de 12 à une vingtaine de personnes des fois.
Mais là, vous vous installez dans des conditions souvent très difficiles. Pas d'eau, pas d'électricité, ni téléphone. Moi, quand je vais chez le dentiste, mon dentiste est équipé comme la NASA. Comment vous faites pour aller vous installer en Amazonie, dans la jungle carrément, et effectuer votre travail?
C'est une excellente question. La première fois qu'on a fait ça, on est arrivé avec une petite valise et un peu d'équipement dans la petite valise. Et au fur et à mesure des années, le projet s'est étendu. Et quand on arrive maintenant, en 4 heures environ de temps, on est capable d'installer une mini clinique n'importe où.
En 4 heures?
En 4 heures.
Alors, vous installez carrément
oui.
À un endroit où il n'y a normalement pas un cabinet de dentiste moderne. Mais vous fonctionnez comment avec des génératrices?
On fonctionne avec des génératrices. Des fois, on fonctionne sans génératrice.
Avez-vous des chaises?
On n'a pas de chaises. On a souvent des tables. On peut avoir des chaises pliantes. On peut avoir une chaise n'importe où. Ça prend juste une surface plate. Ça fait mal au dos à la fin des 2 semaines, mais on s'arrange.
Et c'est tout ça est fourni, gratuit, autofinancé. Vous débarquez là-bas, quand je dis gratuit, pour les gens qui sont sur place.
Absolument. Tout est gratuit pour les gens sur place.
Ils viennent vous voir.
Oui.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des adultes qui n'avaient jamais vu de dentiste avant?
Il y a des adultes qui n'avaient jamais vu de dentiste avant. Il y en a qui, s'ils ont vu quelqu'un, ont été traumatisés. Il y en a qui ont eu des dents extraites sans anesthésie.
Aïe, aïe.
Oui. Donc, c'est non seulement il faut les traiter dans des conditions difficiles, mais en plus, l'état de leur bouche est loin d'être bon dans la majorité des cas. Quand on arrive la première fois dans un petit village, souvent, la majorité des traitements, ce sont des extractions.
Ah oui?
Oui.
Même pour les enfants?
Même pour les enfants, malheureusement.
C'est quoi le problème majeur? C'est le manque d'hygiène quotidien, de l'entretien, quoi, dentaire?
Une partie est le manque d'hygiène. L'autre partie, ça dépend d'où ils sont situés. C'est la diète. Dans certaines régions très pauvres, souvent, les enfants ont accès à du sucre toute la journée, des boissons gazeuses, beaucoup. Dans les pays comme en Équateur ou au Nicaragua, 3 litres de coke, ça coûte beaucoup moins cher qu'une petite bouteille d'eau. Alors souvent, on va voir les enfants toute la journée avec une paille ou avec un petit sac en plastique avec un petit trou dedans. Et
alors,
ils boivent...
Oui, donc, il y a une question, comme vous dites, de diète,
ouais.
de régime alimentaire, trop de sucre.
C'est ça.
Là, les gens, ils viennent, ils marchent des fois des distances considérables pour venir faire la queue à l'endroit où vous avez installé votre cabinet en plein air.
Oui. Au dernier voyage, on avait des gens qui avaient marché 4-5 heures dans la jungle pour venir nous voir, qui attendent la majorité de la journée parce qu'on n'a pas d'horaire, évidemment. C'est premier arrivé, premier servi. On essaye de faire un espèce de triage quand il y a des urgences. Mais là-bas, tout le monde est une urgence, on s'entend.
Est-ce que les gens ont peur?
Ils sont terrifiés.
Pour vrai?
Oui, je vais vous conter une histoire. Une fois, j'essayais d'expliquer aux enfants qu'on allait endormir leurs lèvres, leurs dents, puis j'essayais d'expliquer cette sensation, parce que souvent, quand les enfants pleurent, c'est pas parce qu'ils ont mal, c'est parce qu'ils ont peur. Et la sensation d'avoir perdu le contrôle de leur bouche leur fait peur. Ils savent pas si ça va revenir ou si... Alors, j'étais sortie dans la salle d'attente et j'ai commencé à expliquer aux enfants tranquillement qu'est-ce qui allait se passer, qu'on allait mettre une petite crème pour endormir leurs dents, un liquide, ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, je vois que tous les adultes viennent et se rapprochent. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, on assume que pour eux, c'est normal, mais ils savent pas non plus.
Non,
c'est
non,
l'inconnu.
Non. Ben oui, surtout cette première sensation.
C'est ça.
D'être gelé, d'avoir la bouche gelée, quoi.
C'est ça.
Alors, ils pensaient que c'était permanent.
Ben, il y en a qui pensent que c'est permanent. Ils ont l'impression d'être enflés. Ils savent pas si ça fait vraiment mal ou non.
Le bruit de votre instrument, ça doit leur faire peur aussi?
Ben, moi, j'enlève des dents, fait que ça fait pas de bruit.
Oh bon, vous avez pas... Vous n'utilisez pas la fraise pour...
moi, je suis chirurgienne. Mes collègues, on utilise des fraises, mais en général, c'est pas tellement ça
qui
leur fait
peur. Oui, mais le bruit, là, strident, je vous dis tout ça, et je suis pas de la forêt amazonienne, mais moi, ça me fait peur quand même encore aujourd'hui.
Oui.
Et alors, je me dis, imaginez-vous s'ils ont jamais affronté ça quand vous dites, ouvre la bouche, et là, vous commencez à travailler.
Eh bien, on essaye d'expliquer le plus possible avant de faire la théorie de travailler avec des enfants s'applique aux adultes. On explique, on montre et on fait.
C'est quand même toute une expédition. Vous partez chaque année, vous amenez 10 à 20 personnes, vous avez beaucoup de matériel, vous pouvez même faire des radiographies numériques sur place.
Une très, très bonne amie à moi, il y a à peu près une dizaine d'années, m'a offert un appareil de radiographie digitale. Donc, on l'emmène avec nous. On n'a pas le droit de l'utiliser ici au Québec, mais en mission, on a le droit. On l'emmène avec nous. On a un petit laptop, un petit ordinateur portatif. Et puis, on peut prendre des radiographies dans certains cas là-bas, oui.
Mais là, évidemment, comme vous soignez les gens, vous allez au plus pressant. Mm-hmm. Vous faites beaucoup d'extractions, vous enlevez des dents. Parce qu'il n'y a plus rien à faire et tout ça. Vous ne pouvez pas, malheureusement, vous restez quoi, une période de 2 semaines, donc vous ne pouvez pas faire des suivis sur le long terme.
Non et oui. Alors, ce qu'on essaye de faire pour avoir un maximum d'impact, c'est qu'on essaye de retourner dans les villages où on a déjà été au moins 2, 3 et même 4 fois. Chaque année, quand on retourne, on réalise qu'on a vraiment fait un impact. Parce que la première année, on a enlevé le plus gros des infections et des douleurs. La deuxième année, on voit déjà que les gens nous attendent, ils comprennent qu'on vient les aider. Et là, on peut faire beaucoup plus de réparations. Cette année, au mois de février, quand on est revenu, on avait fait à peu près 500 plombages.
500? Ben, dans cette courte période de temps-là?
En 8 jours.
Mais ma foi, vous travaillez quoi, jour et nuit?
On travaille toute la journée, de 8 heures à quand on a fini.
Et pour votre propre nourriture, là, pour votre vie quoi, quotidienne, ça se traduit comment?
Ça dépend où on est. La plupart des fois, on fait très, très attention parce que ça ne nous avantage pas de tomber malade. Au début, on mangeait avec les gens localement. Ils nous amenaient de la nourriture. On a eu quelques expériences où, où ce n'était pas extraordinaire.
Où vous avez sauté quelques plombages.
Où on a sauté quelques journées. Mais maintenant, on s'arrange à l'avance. On organise un petit peu nos repas d'avance. C'est toujours très basique, on s'entend, parce que dans les endroits où on est, c'est jamais de la grosse nourriture. Mais ça fait l'affaire. Le riz et les fèves, ça nous amène très loin.
Oui. Vous êtes tellement aimé que quand vous arrivez, des fois, il y a des gens qui vont vous attendre à l'aéroport comme une escorte.
Écoutez, au bout de 3 fois au Pérou, on est arrivé dans un petit village en avion. Et à la sortie de l'avion, il y avait la musique. Et la musique venait d'une, de, de, d'une, d'un camion où les gens du village étaient venus en camion nous recevoir.
C'est formidable.
Oui.
Tellement ils étaient... Il n'y a rien de plus douloureux sur la terre que d'endurer un mal de dents. Vous débarquez là, vous êtes comme des anges. Vous leur enlevez le mal, même s'ils ont peur un petit peu.
On a souvent été comparés à des anges.
Et vous, votre surnom, c'est Mama Bear.
C'est ça.
Ou Maman Ours.
Maman Ours.
Pourquoi?
Parce que quand je pars, j'ai souvent des jeunes avec moi et je les protège comme une maman ours protège ses oursons. Et une fois, j'avais des jeunes qui voulaient aller, je me souviens plus, faire quelque chose que je trouvais ridicule parce que c'était dangereux dans l'endroit où on était. Et je me suis fait dire, tu n'es pas ma mère. J'ai dit, mais ici, c'est moi ta mère, je m'occupe de toi. Et c'est de là que le surnom Maman Ours, Mama Bear est arrivé. Alors maintenant, on a une petite famille d'oursons. On a Mama Bear, Papa Bear, Huggy Bear, Care Bear.
Oui. Ben, Véronique Benhamou, c'est très beau ce que vous faites. Chaque année, vous allez là, donc, aider des communautés qui n'avaient jamais vu ça, qui n'avaient jamais été traitées pour ça, et vous leur enlevez beaucoup de douleur, vous les soulagez énormément. C'est tout à votre honneur. 12 voyages, là. Continuez votre beau travail. Vous allez où l'année prochaine?
J'ai l'intention de continuer. On est en train de... On n'est pas sûr si on retourne encore en Équateur. Il y a une possibilité que j'aille aussi au Kenya. Je ne suis pas sûre.
Éventuellement.
Mais j'aimerais faire 2 missions l'année prochaine.
Bon, c'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Attention à votre nourriture.
Oui.
Si vous voulez continuer d'opérer comme ça. Merci beaucoup. C'est le docteur Véronique Benhamou. Elle est dentiste spécialiste parodontiste qui organise chaque année des cliniques humanitaires. Complètement autonomes, d'ailleurs. Ils partent de Montréal, sont tout en autonomie avec des professionnels qui vont traiter donc des gens sur une période de 2 semaines en Équateur, au milieu de l'Amazonie, au Pérou et dans d'autres destinations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.